Smara, les pods. Ici donc le châtiment les éprouve, et elles expient par des supplices leurs anciens crimes. Les unes, suspendues dans les airs, sont le jouet des vents, les autres, plongées dans un vaste gouffre, s'y lavent de leurs souillures criminelles ou s'épurent dans le feu. Virgile, Énéide, chapitre 6, vers 739-742. C'est la coutume de dormir après ses repas, et le moment est favorable pour lui briser le crâne avec un marteau, lui offrir le ventre avec un pieu, ou lui couper la gorge avec un poignard. Shakespeare, La Tempête, acte 2, scène 2. Les vapeurs du plaisir et du vin avaient étourdi nos esprits, et je voyais malgré moi les fantômes de l'imagination de Polémon se poursuivre dans les recoins les moins éclairés de la salle du festin. Déjà, il s'était endormi d'un sommeil profond, sur le lit semé de fleurs, à côté de sa coupe renversée, et mes jeunes esclaves, surprises par un abattement plus doux, avaient laissé tomber leur tête appesantie contre la harpe qu'elle tenait embrassée. Les cheveux d'or de Myrtée descendaient comme un long voile sur son visage entre les fils d'or qui pâlissent auprès d'eux, et la laine de son doux sommeil, errant sur les cordes harmonieuses, en tirait encore je ne sais quel son voluptueux qui venait mourir à mon oreille. Cependant, les fantômes n'étaient pas partis. Il dansait toujours dans les ombres des colonnes et dans la fumée des flambeaux. Impatient de ce prestige imposteur de l'ivresse, je ramenais sur ma tête les frais rameaux du lierre préservateur et je fermais avec force mes yeux, tourmentés par les illusions de la lumière. J'entendis alors une étrange rumeur où je distinguais des voix tour à tour graves et menaçantes, ou injurieuses et ironiques. Une d'elles me répétait avec une fastidieuse monotonie quelques vers d'une scène d'Eschyle. Une autre, les dernières leçons que m'avait adressées mon aïeul mourant, de temps en temps comme une bouffée de vent qui court en sifflant parmi les branches mortes et les feuilles desséchées dans les intervalles de la tempête, une figure dont je sentais le souffle éclatait de rire contre ma joue et s'éloignait en riant encore. Des illusions bizarres et horribles succédèrent à cette illusion. Je croyais voir à travers un nuage de sang tous les objets sur lesquels mes regards venaient de s'éteindre. Ils flottaient devant moi et me poursuivaient d'attitudes horribles et de gémissements accusateurs. Polémon, toujours couché auprès de sa coupe vide, Myrtée, toujours appuyée sur sa harpe immobile, poussait contre moi des imprécations furieuses et me demandait compte de je ne sais quel assassinat. Au moment où je me soulevais pour leur répondre et où j'étendais mes bras sur la couche rafraîchie par d'amples libations de liqueurs et de parfums, quelque chose de froid saisit les articulations de mes mains frémissantes. C'était un nœud de fer qui au même instant tomba sur mes pieds engourdis et je me trouvai debout entre deux haies de soldats livides, étroitement serrés, dont les lances, terminées par un fer éblouissant, représentaient une longue suite de candélabres. Alors je me mis à marcher en cherchant du regard dans le ciel le vol de la colombe voyageuse pour confier au moins à ses soupirs, avant le moment horrible que je commençais à prévoir, le secret d'un amour caché qu'elle pourrait raconter un jour en planant près de la baie de Corcyre au-dessus d'une jolie maison blanche. Mais la colombe pleurait sur son nid parce que l'autour venait de lui enlever le plus cher des oiseaux de sa couvée, et je m'avançais d'un pas pénible et mal assuré vers le but de ce convoi tragique, au milieu d'un murmure d'affreuse joie qui courait à travers la foule et qui appelait impatiemment mon passage. Le murmure du peuple à la bouche béante, à la vue altérée de douleur dont la sanglante curiosité boit du plus loin possible toutes les larmes de la victime que le bourreau va lui jeter. « Le voilà » criaient-ils tous, « le voilà ! Je l'ai vu sur un champ de bataille !» disait un vieux soldat, mais il n'était pas alors blême comme un spectre, et il paraissait brave à la guerre. « Qu'il est petit !» Ce Lucius dont on faisait un Achille et un Hercule, reprenait un nain que je n'avais pas remarqué parmi eux. C'est la terreur, sans doute, qui a anéanti sa force et qui fléchit ses genoux. Est-on bien sûr que tant de férocité ait pu trouver place dans le cœur d'un homme ? Dit un vieillard aux cheveux blancs dont le doute glaça mon cœur. Il ressemblait à mon père. « Lui !» répartit la voix d'une femme dont la physionomie exprimait tant de douceur. « Lui !» répéta-t-elle en s'enveloppant de son voile pour éviter l'horreur de mon aspect. « Le meurtrier de Polémon et de la belle Myrtée !»« Je crois que le monstre me regarde, » dit une femme du peuple. « Ferme-toi, œil de basilic, âme de vipère, que le ciel te maudisse !» Pendant ce temps-là, les tours, les rues, la ville entière fuyaient derrière moi comme le port abandonné par un vaisseau aventureux qui va tenter les destins de la mer. Il ne restait qu'une place nouvellement bâtie, vaste, régulière, superbe, couverte d'édifices majestueux, inondée d'une foule de citoyens de tous les états qui renonçaient à leur devoir pour obéir à l'attrait d'un plaisir piquant. Les croisées étaient garnies de curieux avides, entre lesquels on voyait des jeunes gens disputer l'étroite embrasure à leur mère ou à leur maîtresse. L'obélisque élevé au-dessus des fontaines, l'échafaudage tremblant du maçon, les tréteaux nomades du baladin portaient les spectateurs. Des hommes haletants d'impatience et de volupté pendaient aux corniches des palais et, embrassant de leurs genoux les arêtes de la muraille, ils répétaient avec une joie immodérée « Le voilà !» Une petite fille dont les yeux hagards annonçaient la folie et qui avait une tunique bleue, toute froissée et des cheveux blonds poudrés de paillettes, chantait l'histoire de mon supplice. Elle disait les paroles de ma mort et la confession de mes forfaits, et sa complainte cruelle révélait à mon âme épouvantée des mystères du crime impossibles à concevoir pour le crime même. L'objet de tout ce spectacle, c'était moi. Un autre homme qui m'accompagnait et quelques planches exhaussées sur quelques pieux au-dessus desquels le charpentier avait fixé un siège grossier et un bloc de bois mal équarri qui le dépassait d'une demi-brasse. Je montai 14 degrés, je m'assis, je promenai mes yeux sur la foule. Je désirais de reconnaître des traits amis, de trouver dans le regard circonspect d'un adieu honteux des lueurs d'espérance ou de regret. Je ne vis que Myrtée, qui se réveillait contre sa harpe et qui la touchait en riant, que Polémon, qui relevait sa coupe vide et qui, à demi étourdi par les fumées de son breuvage, la remplissait encore d'une main égarée. Plus tranquille, je livrai ma tête au sabre si tranchant et si glacé de l'officier de la mort. Jamais un frisson plus pénétrant n'a couru entre les vertèbres de l'homme. Il était saisissant comme le dernier baiser que la fièvre emprime au cou d'un moribond, aigu comme l'acier raffiné, dévorant comme le plomb fondu. Je ne fus tiré de cette angoisse que par une commotion terrible. ma tête était tombée. Elle avait roulé, rebondi sur le hideux parvis de l'échafaud, et prête à descendre toute meurtrie entre les mains des enfants. Des jolis enfants de la Risse qui se jouent avec les têtes de mort. Elle s'était rattachée à une planche saillante en la mordant avec ses dents de fer que la rage prête à l'agonie. De là, je tournais mes yeux vers l'assemblée qui se retirait silencieuse mais satisfaite. Un homme venait de mourir devant le peuple. Tout s'écoula en exprimant un sentiment d'admiration pour celui qui ne m'avait pas manqué et un sentiment d'horreur contre l'assassin de Polémon et de la belle Myrté. « Myrté, Myrté !» m'écriai-je en rugissant, mais sans quitter la planche salutaire. « Lucius, Lucius !» répondit-elle en sommeillant à demi. « Tu ne dormiras donc jamais tranquille quand tu as vidé une coupe de trop. Que les dieux infernaux te pardonnent et ne dérangent plus mon repos. J'aimerais mieux coucher au bruit du marteau de mon père, dans l'atelier où il tourmente le cuivre, que parmi les terreurs nocturnes de ton palais. » Et pendant qu'elle me parlait, je mordais obstiné le bois humecté de mon sang, fraîchement répandu, et je me félicitais de sentir croître les sombres ailes de la mort qui se déployaient lentement au-dessous de mon cou mutilé. Toutes les chauves-souris du crépuscule n'effleuraient caressantes en me disant « Prends tes ailes !» Et je commençais à battre avec effort je ne sais quel lambeau qui me soutenait à peine. Cependant, tout à coup, j'éprouvais une illusion rassurante. 10 fois, je frappais les lambris funèbres du mouvement de cette membrane presque inanimée que je traînais autour de moi comme les pieds flexibles du reptile qui se roule dans le sable des fontaines. 10 fois, je rebondis en m'asseyant peu à peu dans l'humide brouillard. Qu'il était noir et glacé, et que les déserts de ténèbres sont tristes. Je remontai enfin jusqu'à la hauteur des bâtiments les plus élevés, et je planais en rond autour du socle solitaire que ma bouche mourante venait d'effleurer d'un sourire et d'un baiser d'adieu. Tous les spectateurs avaient disparu, tous les bruits avaient cessé, tous les astres étaient cachés, toutes les lumières évanouies. L'air était immobile, le ciel glauque, terne, froid, comme une tôle mate. Il ne restait rien de ce que j'avais vu, de ce que j'avais imaginé sur la terre, et mon âme épouvantée d'être vivante fuyait avec horreur une solitude plus immense, une obscurité plus profonde que la solitude et l'obscurité du néant. Mais cet asile que je cherchais, je ne le trouvais pas. Je m'élevais comme le papillon de nuit qui a nouvellement brisé ses langes mystérieux pour déployer le luxe inutile de sa parure pourpre, d'azur et d'or. S'il aperçoit de loin la croisée du sage qui veille en écrivant à la lueur d'une lampe de peu de valeur, ou d'une jeune épouse dont le mari s'est oublié à la chasse, il monte, il cherche à se fixer, bat le vitrage en frémissant, s'éloigne, roule, bourdonne, et tombe en chargeant le talc transparent de toute la poussière de ses ailes fragiles. C'est ainsi que je battais les mornes ailes que le trépas m'avait données, les voûtes d'un ciel d'airain qui ne me répondait que par un sourd retentissement. Et je redescendais en planant en rond autour du socle solitaire, du socle que ma bouche mourante venait d'effleurer d'un sourire et d'un baiser d'adieu. Le socle n'était plus vide. Un autre homme venait d'y appuyer sa tête renversée en arrière, où son cou montrait à mes yeux la trace de la blessure, la cicatrice triangulaire du fer de lance qui me ravit Polémon au siège de Corinthe. Ses cheveux ondoyants roulaient leurs boucles dorées autour du bloc sanglant. Mais Polémon, tranquille et les paupières abattues, paraissait dormir d'un sommeil heureux. Quelque sourire qui n'était pas celui de la terreur volait sur ses lèvres épanouies et appelait de nouveaux chants de myrtée ou de nouvelles caresses de Thélaïe. Au trait du jour pâle qui commençait à se répandre dans l'enceinte de mon palais, je reconnaissais à des formes encore un peu indécises toutes les colonnes et tous les vestibules parmi lesquels j'avais vu se former pendant la nuit les danses funèbres des mauvais esprits. Je cherchais Myrtée, mais elle avait quitté sa harpe, et immobile entre Thélaïre et Théis, elle arrêtait un regard morne et cruel sur le guerrier endormi. Tout à coup, au milieu d'elle, s'élança Méroé. L'aspic d'or qu'elle avait détaché de son bras sifflait en glissant sous les voûtes. Le rhombus retentissant roulait et grondait dans l'air. Smara, convoqué pour le départ des songes du matin, venait réclamer la récompense promise par la reine des terreurs nocturnes et palpitait auprès d'elle d'un hideux amour en faisant bourdonner ses ailes avec tant de rapidité qu'elle n'obscurcissait pas du moindre nuage la transparence de l'air. Théis et Thélaïre et Myrtée dansaient, échevelés, et poussaient des hurlements de joie. Près de moi, d'horribles enfants, aux cheveux blancs, au front ridé, à l'œil éteint, s'amusaient à m'enchaîner sur mon lit des plus fragiles réseaux de l'araignée qui jette son filet perfide à l'angle de deux murailles contiguës pour y surprendre un pauvre papillon égaré. Quelques-uns recueillaient ces fils d'un blanc soyeux, dont les flocons légers échappent au fuseau miraculeux des fées, et ils les laissaient tomber de tout le poids d'une chaîne de plomb sur mes membres excédés de douleur. « Lève-toi, » me disait-il, avec des rires insolents. Et il brisait mon sein oppressé en le frappant d'un chalumeau de paille rompu en forme de fléau qu'ils avaient dérobé à la gerbe d'une glaneuse. Cependant, j'essayais de dégager les frêles liens qui les captivaient, mes mains redoutables à l'ennemi et dont le poids s'est fait sentir souvent aux Thessaliens dans les jeux cruels du ceste et du pugilat. Et mes mains redoutables, mes mains exercées à soulever un ceste de fer qui donne à la mort, mollissaient sur la poitrine désarmée d'une infantastique, comme l'éponge battue par la tempête au pied d'un vieux rocher que la mer attaque sans l'ébranler depuis le commencement des siècles. Ainsi s'évanouit sans laisser de trace, avant même d'effleurer l'obstacle dont le rapproche un souffle jaloux, ce globe aux mille couleurs, jouet éblouissant et fugitif des enfants. La cicatrice de Polémon versait du sang, et Méroé, ivre de volupté, élevait au-dessus du groupe avide de ses compagnes le cœur déchiré du soldat qu'elle venait d'arracher de sa poitrine. Elle en refusait, elle en disputait les lambeaux aux filles de Larissa, altérées de sang. Smara protégeait de son vol rapide et de ses sifflements menaçants l'effroyable conquête de la reine des terreurs nocturnes. À peine il caressait lui-même de l'extrémité de sa trompe, dont la longue spirale se déroulait comme un ressort, le cœur sanglant de Polémon, pour tromper un moment l'impatience de sa soif. Et Méroé, la belle Méroé, souriait à sa vigilance et à son amour. Les liens qui me retenaient avaient enfin cédé, et je tombais debout, éveillé, au pied du lit de Polémon, tandis que loin de moi fuyaient tous les démons et toutes les sorcières et toutes les illusions de la nuit. Mon palais même et les jeunes esclaves qui en faisaient l'ornement, fortune passagère des songes, avaient fait place à la tente d'un guerrier blessé sous les murailles de Corinthe et au cortège lugubre des officiers de la mort. Les flambeaux du deuil commençaient à retentir sous les voûtes souterraines du tombeau. Et Polémon, oh désespoir! Ma main tremblante demandait en vain une faible ondulation à sa poitrine. Son cœur ne battait plus, son sein était vide. L'épilogue. Ici, l'on entend les gémissements lamentables des âmes qui volent avec un sifflement léger. Les paysans voient passer les spectres blêmes et les fantômes des morts. Claudien. Jamais je ne pourrai ajouter foi à ces vieilles fables ni à ces jeux de féerie. Les amants, les fous et les poètes ont des cerveaux brûlants, une imagination qui ne conçoit que des fantômes, et dont les conceptions, roulant dans un brûlant délire, s'égarent toutes au-delà des limites de la raison. Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été, acte 5, scène première. Ah, qui viendra briser leurs poignards? Qui pourra étancher le sang de mon frère et le rappeler à la vie? Oh, que suis-je venu chercher ici? Éternelle douleur! Larissa, Thessaly, Tempé, flot du Péné que j'abhorre, oh, Polémon, cher Polémon! Que dis-tu au nom de notre bon ange? Que dis-tu de poignard et de sang? Qui te fait balbutier depuis si longtemps des paroles qui n'ont point d'ordre ou gémir d'une voix étouffée comme un voyageur qu'on assassine au milieu de son sommeil et qui est réveillé par la mort? Lorenzo, mon cher Lorenzo! Lycidis, Lycidis, est-ce toi qui m'as parlé? En vérité, j'ai cru reconnaître ta voix, et j'ai pensé que les ombres s'en allaient. Pourquoi m'as-tu quitté, pendant que je recevais dans mon palais de Larissa les derniers soupirs de Polémon, au milieu des sorcières qui dansent de joie? Vois comme elles dansent de joie. Hélas, je ne connais ni Polémon, ni Larissa, ni la joie formidable des sorcières de Thessaly. Je ne connais que Lorenzo. C'était hier, as-tu pu l'oublier si vite, que revenait pour la première fois le jour qui a vu consacrer notre mariage. C'était hier le 8e jour de notre mariage. Regarde, regarde le jour, regarde Arona, le lac et le ciel de Lombardie. Les ombres vont et reviennent, elles me menacent, elles parlent avec colère, elles parlent de Lycidis, d'une jolie petite maison au bord des eaux, et d'un rêve que j'ai fait sur une terre éloignée. Elles grandissent, elles me menacent, elles crient. Quel nouveau reproche? Veux-tu me tourmenter car ingrat et jaloux? Oh, je sais bien que tu te joues de ma douleur et que tu ne cherches qu'à excuser quelque infidélité ou à couvrir d'un prétexte bizarre une rupture préparée d'avance. Oh, je ne te parlerai plus. Où est Thaïs? Où est Myrtée? Où sont les harpes de Thessaly? Lycidis, Lycidis, si je ne me suis pas trompé en entendant ta voix, ta douce voix, tu dois être là, près de moi. Toi seul peux me délivrer des prestiges et des vengeances de Méroé. Délivre-moi de Théis, de Myrté, de Télaïre elle-même. C'est toi, cruel, qui porte trop loin la vengeance et qui veut me punir d'avoir dansé hier trop longtemps avec un autre que toi au bal de l'île belle. Mais s'il avait osé me parler d'amour, s'il m'avait parlé d'amour, par Saint Charles d'Arona, que Dieu l'ait préservé à jamais, serait-il vrai en effet, Malisidis, que nous sommes revenus de l'île belle au doux bruit de ta guitare jusqu'à notre jolie maison d'Arona, de l'Aris de Thessalie au doux bruit de ta harpe et des eaux du Péné? Laisse la Thessalie, Lorenzo, réveille-toi. Vois les rayons du soleil levant qui frappe la tête colossale de Saint-Charles. Écoute le bruit du lac qui vient mourir au pied de notre jolie maison d'Arona. Respire les brises du matin qui portent sur leurs ailes si fraîches tous les parfums des jardins et des îles, tous les murmures du jour naissant. Le Péné coule bien loin d'ici. Tu ne comprendras jamais ce que j'ai souffert cette nuit sur ces rivages. Que ce fleuve soit maudit de la nature, et maudite aussi la maladie funeste qui a égaré mon âme pendant des heures plus longues que la vie dans des scènes de fausses délices et de cruelles terreurs. Elle a imposé sur mes cheveux le poids de 10 ans de vieillesse. Je te jure qu'ils n'ont pas blanchi, mais une autre fois plus attentive. Je lirai une de mes mains à ta main, je glisserai l'autre dans les boucles de tes cheveux, je respirerai toute la nuit au souffle de tes lèvres, et je me défendrai d'un sommeil profond pour pouvoir te réveiller toujours avant que le mal qui te tourmente sois parvenu jusqu'à ton cœur. Dors-tu ?